Laudetur Jesus Christus.
Lumineuse, visible par tous et qui indique le chemin, les trois qualités de l'étoile qui guide les rois mages ont été développées hier par le pape François. On y revient juste après les titres. Dans le reste de l'actualité, l'extrême droite chargée de former un gouvernement en Autriche cette fois. C'est une première pour le pays. Dans ce journal, nous irons également au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau annonce sa démission. Puis direction la Guinée. La journée d'hier fut sous tension. Plusieurs personnes dans les rues pour demander le départ de la junte militaire au pouvoir. Dans notre dossier en fin de journal, près d'un mois, jour pour jour, après la chute de Bachar al-Assad et les premières mesures du groupe Ayat Tahrir al-Sham, nous reviendrons sur les perspectives pour le pays avec le spécialiste du Moyen-Orient, Didier Billon.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prendre tout de suite la direction du Vatican, plus précisément de la Basilique Saint-Pierre. Dans son homélie hier en la solennité de l'Épiphanie devant 5000 fidèles, reprenant l'évangéliste Luc, François est revenu sur les trois caractéristiques de l'étoile qui guide les rois mages. Les détails avec Myriam Sanduno.
La stella est luminosa. La stella è visibile a tutti e la stella indica un cammino.
D'abord lumineuse, a expliqué François, d'une lumière qui éclaire et indique l'amour à l'opposé des souverains qui, à cette époque, se faisaient appeler étoiles parce qu'ils se sentaient importants à critiquer le souverain pontife. Ceux-ci avaient une splendeur artificielle et froide, résultat de calculs et de jeux de pouvoir. Ensuite, l'étoile est visible par tous, a développé le pape. Les mages suivent cet astre qu'ils voient briller au firmament. Ils remarquent quand d'autres, plus près, ne notent même pas sa présence. Or, l'étoile est toujours là, accessible à quiconque lève les yeux vers le ciel. L'étoile nous appelle à bannir toute forme de sélection, de marginalisation et de rejet des personnes. Enfin, la troisième caractéristique de l'étoile, selon le pape, indique un chemin, une caractéristique importante, d'autant plus en cette année sainte de pèlerinage. Ainsi, l'étoile nous invite à entreprendre un voyage intérieur qui, comme l'a écrit Saint Jean-Paul II pour le grand jubilé de l'an 2000, libère notre cœur de tout ce qui n'est pas charité.
Myriam Sanduno, on reste au Vatican avec la nomination de sœur Simona Brambilla. Elle devient la première religieuse préfète au Vatican. Ancienne supérieure générale italienne des missionnaires de la Consolata, elle prend la tête du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. À ses côtés est nommé un pro-préfet, le cardinal Angel Fernandez Hartheim. En Autriche, c'est une première, le président de la République, Alexander Van der Bellen, a chargé hier le chef du parti d'extrême droite FPÖ d'entamer des négociations et cela en vue de former un gouvernement. Herbert Kickl qui devrait se tourner à présent vers les conservateurs autrichiens, ils ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à discuter avec l'extrême droite qui se retrouve aujourd'hui en position de force à Vienne, Isorias.
Le chef du FPÖ, Herbert Kickl, est sorti tout sourire de son entretien ce lundi avec le président Alexander Van der Bellen, qu'il qualifiait il y a quelques mois encore de momie sénile. Les deux hommes ne s'apprécient guère, mais le président n'a eu d'autre choix que de charger Herbert Kickl de former un gouvernement, alors que 500 personnes manifestaient dehors devant le palais présidentiel. Cette décision découle de l'échec des négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates et du revirement spectaculaire des conservateurs, qui avaient jusqu'à ce dimanche exclu de négocier avec le trop radical Herbert Kickl. Ce dernier n'a pourtant rien changé, ni à son ton, ni à ses positions. Partisan d'une ligne extrêmement dure sur l'immigration, il assume sa proximité avec les identitaires, vante la politique de Viktor Orban et ne cache pas ses positions pro-russes. Conservateurs et extrême droite ont déjà gouverné ensemble à deux reprises, mais jamais le FPÖ n'a été le partenaire majoritaire, ni obtenu la chancellerie. Ce serait différent cette fois-ci si les discussions aboutissaient, car c'est bien le FPÖ qui est en position de force, vainqueur des dernières législatives et crédité actuellement de 35% d'intention de vote dans les sondages.
À Vienne, Isorias. Un puissant séisme ce matin dans la région himalayenne du Tibet, dans le nord-ouest de la Chine. 6,8 sur l'échelle de Richter. Au moins 53 personnes sont mortes selon les premiers chiffres. De nombreux bâtiments se sont effondrés et les secousses se sont faites ressentir jusqu'au Népal voisin. Le club des BRICS compte désormais un nouveau membre. L'Indonésie fait aujourd'hui son entrée formelle dans ce bloc des économies émergentes. C'est la première économie d'Asie du Sud-Est. Elle devient donc le 10e pays des BRICS, ce contrepoids de l'Occident créé en 2009 et agrandi déjà l'année dernière par l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Une cote de popularité au plus bas, des critiques de l'opposition et au sein même de son propre parti politique. Le Premier ministre canadien a finalement annoncé hier sa démission. Justin Trudeau a passé 9 ans à la tête du gouvernement canadien. Le chef de file du Parti libéral quittera ses fonctions dès qu'un successeur lui sera trouvé pour prendre les rênes de son parti, Jean-Charles Puzolu.
Arrivé au pouvoir alors qu'il n'était pas favori en 2015, Justin Trudeau jette l'éponge. La décennie passée à la tête du gouvernement canadien avait pourtant commencé par un véritable engouement pour ce jeune Premier ministre, alors âgé de 43 ans, qui promettait réforme sur réforme. Mais il est passé en 10 ans de la Trudeau-mania à une plongée dans les sondages d'opinion qui lui donne aujourd'hui 20 points de retard sur les conservateurs. Montré du doigt pour sa gestion économique, le dernier budget de Justin Trudeau affiche un déficit de 41 milliards d'euros, bien plus que ce que disaient les prévisions. Son idylle avec les Canadiens n'aura duré que 4 ans. Sa baisse de popularité, initiée en 2019, n'a fait que s'aggraver malgré une bonne reprise après la pandémie. Le dernier remaniement ministériel n'a pas donné l'impulsion espérée. Justin Trudeau quitte donc l'arène, mais pas encore le Parti libéral. Le système politique canadien établit que son successeur, qui sera élu chef du Parti libéral, deviendra automatiquement Premier ministre jusqu'aux élections législatives prévues au mois d'octobre. Deux femmes sont dans la course pour lui succéder, Mélanie Joly, sa ministre des Affaires étrangères, et Chrystia Freeland, son ex-ministre des Finances, démissionnaire en décembre dernier, après avoir émis de vives critiques à l'égard du coût excessif de la politique du gouvernement.
Merci Jean-Charles Puzolu. Et parmi les réactions après la démission du Premier ministre canadien, le chef de la Maison-Blanche, Joe Biden, salue un ami fidèle des États-Unis. Et Donald Trump, de son côté, répète que le Canada devrait fusionner avec les États-Unis et devenir le 51e État fédéral. Et c'était l'une des priorités de son mandat. Quelques jours avant son départ, Joe Biden fait un dernier geste pour l'environnement avec l'interdiction de nouveaux forages de gaz ou de pétrole en mer. Une décision que le président élu Donald Trump, qui doit entrer en fonction le 20 janvier, compte annuler immédiatement. C'est ce qu'il a assuré hier lors d'une interview. Il y a 10 ans, la France était saisie par l'horreur, la tuerie du 7 janvier contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Un attentat islamiste qui ouvrait une année noire en 2015 dans l'Hexagone, marquée par une série d'attaques jusqu'à celle de Paris le 13 novembre. De nombreuses commémorations rendent aujourd'hui hommage aux victimes de Charlie Hebdo et aux victimes du magasin de l'hypercachère visé 2 jours plus tard. Les propos du président français passent mal sur le continent africain. Emmanuel Macron a affirmé que le départ des forces françaises du Sénégal était le résultat d'une proposition de la France. Or, selon le Premier ministre sénégalais, il n'en est rien. Aucune discussion n'a eu lieu, a réagi Ousmane Sonko. Le départ des soldats français découle de la seule volonté du Sénégal, a-t-il ajouté. En Guinée, plusieurs personnes étaient réunies dans les rues hier pour demander le départ de la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya. Une manifestation organisée par plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile, réunis sous la bannière des forces vives de Guinée. À Conakry, Emmanuel Milimono.
Les premiers accrochages ont commencé dans la nuit du dimanche à lundi, la veille de la manifestation. Des heurts ont éclaté entre des jeunes manifestants et les forces de l'ordre sur l'autoroute Le Prince. Certains jeunes ont brûlé des pneus sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser à travers des tirs de sommation. Puis, la matinée du lundi, la situation était relativement calme, hormis la peur qui était palpable car beaucoup de magasins sont restés fermés et la circulation quasi déserte sur l'autoroute Le Prince. Aux environs de midi, les violences ont repris et cette fois, ça a dégénéré. Un jeune de 20 ans a reçu une balle à l'abdomen et a rendu l'âme une heure plus tard à Sonfonian, dans la haute banlieue de Conakry. Le reste de l'après-midi a été marqué par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police, parmi lesquelles des mineurs. Les forces vives de Guinée, dans un communiqué en fin de journée, se sont réjouies de la réussite de la manifestation, tout en déplorant le cas de mort enregistré dans la journée. Elles ont par ailleurs exigé la libération des personnes interpellées et appelé leurs militants à rester mobilisés. Emmanuel Milimuno Conakry pour Radio Vatican.
C'était il y a presque un mois, jour pour jour, le 8 décembre, le président syrien prenait la fuite vers Moscou. Des faits après 14 ans de guerre et sans la moindre résistance militaire. Aujourd'hui en Syrie, le nouveau pouvoir prend ses marques. Le nouveau maître des lieux, Ahmed al-Shara, tente de rassurer. D'abord soutien d'Al-Qaïda, il s'en est éloigné et cherche aujourd'hui à montrer le visage d'un homme politique ouvert au dialogue. Ahmed al-Shara qui a abandonné ce nom de guerre al-Joulani et semble vouloir jouer la carte de l'inclusion dans plusieurs domaines, notamment au niveau militaire, en mettant en place un plan d'unification des différents groupes armés. Pour Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, cette première étape sur le plan militaire est fondamentale. On l'écoute.
Il y a visiblement, de la part de Joulani, une volonté de préserver l'unité de la Syrie. Il y a un travail titanesque qu'il doit réaliser, c'est-à-dire effectivement l'inclusion de la totalité ou de la grande majorité de ces groupes armés au sein d'une structure unitaire. Mais la complexité de la situation est terrible. L'équation est à multiples inconnues pour l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante, mais je pense qu'il a raison de considérer qu'un des axes principaux prioritaires dans les semaines à venir, c'est la reconstitution d'un appareil sécuritaire efficient, efficace et unitaire, donc inclusif.
Dans ce processus d'inclusion, quel serait l'avenir des minorités religieuses ?
Joulani comprend parfaitement que une partie de ces défis, c'est de pouvoir se réinsérer dans ce qu'on appelle communément la communauté internationale. Et pour ce faire, la dimension chrétienne de l'histoire de la Syrie est très importante. Il en est parfaitement conscient. Je pense que quand il reçoit les représentants des différentes religions, cela correspond à un projet politique. En ce sens, je pense que les chrétiens syriens qui restent sur place pourront continuer à pratiquer leur foi. En tout cas, évidemment, c'est souhaitable. Et c'est son intérêt, c'est surtout cela qui est important. Donc il faut, de mon point de vue, pas tenter de psychologiser les choses, mais de raisonner politiquement. Et son intérêt, c'est d'inclure y compris la communauté chrétienne, dont on sait très bien l'importance qu'elle a eue dans l'histoire de ce pays et de cette région.
Et pour envisager la reconstruction, la levée des sanctions semble une étape fondamentale.
Les sanctions, elles avaient été prises contre le régime de Bachar al-Assad. Il n'est plus là. Donc pour l'instant, il n'y a plus de raison objective qui justifie le maintien de ces sanctions. Alors, tout cela doit se faire de façon très contrôlée, maîtrisée, en respect du droit international. Mais je pense que le plus vite seront levées les sanctions, plus non seulement elles sont un signal politique très important sur le thème de la nécessité de réintégrer la Syrie dans le jeu international et régional, la levée de ces sanctions permettra d'imaginer, mais ça va prendre des années, voire des décennies, comment peut-on procéder à la reconstruction du pays qui est un pays martyr, qui est un pays sinistré. Certaines études internationales ont indiqué qu'il y aurait besoin de 500 milliards de dollars pour procéder à la reconstruction de la Syrie. Donc chacun comprend que cela va prendre des années, voire encore des décennies.
Reste à régler aussi une autre question, celle de la justice, et notamment pour les responsables du régime déchu et pour Bachar el-Assad lui-même.
Il est évident que même s'il y a une volonté de réconciliation de la part des nouvelles autorités politiques syriennes, il faudra bien que les responsables des pires abominations de Bachar el-Assad puissent être jugés et voire condamnés. Alors, pour le cas précis de Bachar el-Assad, là, on a aussi une difficulté majeure, C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, là évidemment, dans son collimateur, si je puis dire, mais que celui-ci, pour l'instant, est protégé par Poutine à Moscou. Mais ça fait partie aussi de la reconstruction de la Syrie que de pouvoir aussi régler, en respect du droit international, eh bien, l'avenir de celui, en l'occurrence, qui a été le principal responsable de ce régime de terreur qui a existé pendant des années.
Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, c'était ce matin notre invité. Merci, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.